Donc, à 11h, il y a le dîner.
11h24, oui,
c'est ça. Est-ce que la majorité dîne ici ou il y en a qui retournent?
Oh, il y en a beaucoup qui dînent ici. Excusez-moi tout le monde, qui va au service de garde le midi? Juste le midi.
Ah, quand même, hein?
C'est la majorité. Un peu plus à moitié.
Merci. Es-tu bonne comme prof?
Oui, oui.
C'est sur tape.
Il y a des preuves, ça s'en va à la radio.
Ben oui.
Trop cool, on va à la radio!
Ben, votre voix va à la radio. Nous, on reste ici.
Éteindre les lumières, ça marche encore, ça.
Si vous avez une question à poser à monsieur...
Mathieu.
Mathieu, vous levez la main. Je suis certaine qu'il va vouloir vous répondre.
OK, ben, toi.
C'est à quel poste de TV?
Radio. C'est le 101,5. Ça s'appelle CIBL. C'est une radio communautaire. Ça veut dire que c'est des gens qui font ça bénévolement pour le plaisir de faire de la radio.
Quand ça?
Ça va passer le mardi, bon, donc mardi prochain, entre 13h et 14h. Puis on est aussi sur Internet au www.danslechamplexical.com. Chant des roses.
Okay. Est-ce que ça demande beaucoup de travail faire la radio? Parce que moi, plus tard, j'aimerais ça m'en faire.
Ça demande beaucoup de travail, mais c'est très, 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 très le fun.
Ce qui a ouvert l'émission, c'était jeudi dernier dans une classe de 4e année de l'école Chanoine Joseph Théoret à Verdun. Et on va retourner plusieurs fois encore là-bas aujourd'hui pour parler aux profs et aux jeunes. Parce que cette semaine, à Dans le champ lexical, on vous parle du mot « école ». Et comme à chaque semaine, évidemment, on a une série de reportages, d'entrevues et de textes qui se rapportent tous de près ou de loin avec le mot de la semaine. On a donc pour vous une école de rock, une entrevue avec Biz et des extraits de son roman La Chute de Sparte et plein de textes historiques sur l'école et l'éducation. Mais d'abord, on va retourner dans les classes de l'école Chanoine Joseph Théoret.
Si tu as deux adjectifs, il faut que les deux soient accordés. D'accord?
Oui.
Puis, tu sais, principal au pluriel, ça fait pas principal. Non, c'est l'autre que je parle.
Attends, toi, t'aimes les mathématiques?
Oui.
Es-tu toute seule?
Dans ma classe, à peu près.
Ouais. Pourquoi t'aimes ça?
Ben, je sais pas vraiment.
Ça te plaît?
Ouais.
Plus que le français, plus que l'anglais, plus que l'éducation physique?
Ouais, c'est genre mon cours préféré.
OK. Quand tu dis ça, est-ce que les gens te regardent bizarre?
Oui, des fois.
Puis, est-ce que tu penses que tu voudrais devenir, je sais pas, mathématicienne?
Mm-hmm.
Ouais?
Ouais.
Ou chimiste, ou des sciences?
Ouais.
Est-ce que tu aimes les sciences en général?
Ouais, j'aime beaucoup les sciences.
T'aimes plein de choses, là.
Ouais.
Pas juste les maths.
Mais c'est à peu près mon cours préféré.
Quand tu arrives à la maison, est-ce que tu fais des maths pour le plaisir?
Ouais.
Oui? Mon Dieu, je disais ça en blague. Mais donc, tu arrives chez toi, puis tu fais des...
Ouais, ben je vais sur Internet, puis là, je cherche des mathématiques.
Ah, mais c'est des jeux,
Ouais, c'est des jeux de mathématiques, quoi.
OK. Il y en a pas beaucoup, des petites filles comme toi qui trippent sur les maths?
Ouais.
Pourquoi tu penses?
Je sais pas, parce que les autres, ils aiment mieux la science, puis les autres cours.
Faut que je te montre mon chandail. Le chandail qui dit « Les maths, quelle belle folie! » On est fait pour s'entendre. High five!
Tapis dans les serpes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose.
Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi? Tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante.
sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source, j'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-gouttes. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi? Les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose.
Ici, on est dans le quartier général, disons, du musée du rock'n'roll.
C'est ça. Patrice Caron, directeur général de l'école du rock'n'roll et du musée du rock'n'roll et du gimmick. Le musée du rock'n'roll, pour l'instant, c'est surtout un groupe de gens réunis ensemble pour monter le projet d'avoir notre propre bâtiment éventuellement, mais aussi monter des expositions thématiques. On a déjà fait une l'été dernier, puis on travaille sur une grosse pour la suivante. Ce qu'on fait avec le musée, c'est un peu d'être... c'est un peu remettre en lumière ce qui s'est fait auparavant pour un peu expliquer ce qui se passe maintenant. Puis c'est ça le lien aussi de cette partie à une école du rock'n'roll. Puis le musée, quand on a fait notre première expo, on s'est rendu compte que par rapport à la période qu'on couvre, ben c'est sûr qu'on touche une population d'un certain âge qui est super intéressante et tout, mais on a vu des jeunes venir à l'expo, puis je pense pas que j'ai vu quelqu'un s'emmerder plus que ça dans la vie, même si je suis quelqu'un d'enjoué et tout.
Des jeunes?
C'était des ados.
Ils s'emmerdaient?
Oh, total. C'était impressionnant.
Mais raconte-moi comment ça se passe. C'est quoi cette école-là?
C'est sur le concept d'un camp de jour. Mais c'est pas bricolage, jouer au parc, on suit en ligne, puis tout ça. Là. C'est vraiment... pendant une semaine, on essaye de leur donner le goût de soit de continuer à faire du rock'n'roll ou au moins d'en écouter.
Donc, ils ne sont pas obligés de jouer?
Non, mais ils vont trouver le temps long quand même, parce qu'on parle que de ça ou presque.
Donc, vous avez des instruments aussi?
Oui, il n'y a pas tant d'histoires que ça, parce qu'on essaie vraiment de leur rendre ça le plus... ludique possible. Fait que nous, c'est ça. L'idée d'être dans le bâtiment ici, c'est que c'est plein de locaux de répétition. Puis c'est des locaux de prédiction de qualité professionnelle. L'exemple aujourd'hui, c'est Luc de La Rochelière qui pratique un spectacle avec André Lindsay. Il y a Plume La Traverse qui est venu pratiquer son show de la Saint-Jean, France d'Amour, les Pornflakes jam ici à toutes les semaines. Puis ça, pour moi, d'avoir les locaux ultra équipé, c'est numéro un. Puis deux, que les jeunes peuvent rencontrer ces artistes-là dans un autre contexte que sur une scène ou dans un festival ou quoi que ce soit, parce que c'est comme si tu les attrapais dans leur intimité, mais pas vraiment. Ils sont en train de préparer quelque chose, mais... Ils sont dans la création. Puis les jeunes, ben entre les sessions de pratique, ben sont dans les corridors, ils se courent après, ils jouent à tag... On organise une grosse chasse au trésor dans tout le bâtiment. Mmh. Fait que pendant les semaines où ce que les jeunes sont en boîte à musique, mais les musiciens sont en contact direct avec eux. Puis c'est sûr que on est très slack, là. On n'est pas une école très, très autoritaire. Puis ça court partout.
Ben, à l'image du rock'n'roll.
Ouais, c'est ça. Puis nous, on garde du temps aussi pour ce que j'appelle veggie. Parce que ça fait partie d'être dans un band, c'est-à-dire veggie, puis dire des niaiseries, puis...
Attendre quelque chose.
C'est ça, puis créer une chimie entre les musiciens, parce que on a juste une semaine. C'est sûr que c'est session accélérée pour plusieurs. Mais aussi par rapport à l'âge, tu peux pas garder un enfant de 7 ans 4 heures de temps dans un local de pratique. Fait que eux, c'est différent.
Apprendre
différentes choses. Aussi, c'est ça. Puis les vieux, faut leur donner des coupées d'un fesse pour qu'ils sortent des locaux. Là. Ça, c'est le contraire total. Les autres, ils veulent plus s'en aller. Puis... Mais les plus jeunes, eux, ils arrivent avec zéro idée. T'sais, ils n'ont pas déjà, moi, j'aime ce groupe-là ou non. Ils ont des petites pistes, mais c'est pas encore défini. Au contrairement, un kid de 14 ans, que lui, c'est Metallica, Judas Priest, puis un après l'autre, là, puis il veut jouer que ça. Puis dès que tu dirais, bon, ben là, il faudrait que tu fasses une composition, son cerveau, il marche plus, là. Il est plus capable, puis il était super bon pour te faire du Metallica, les yeux fermés. Mais tu lui demandes de faire une chanson trois accords, puis il est pas capable. Fait qu'eux, il faut comme leur désapprendre. Parce qu'aussi, ils pratiquent la guitare, mais sans batterie. Fait qu'ils sont capables de suivre avec une batterie.
J'imagine que vous quittez parfois les instruments pour apprendre d'autres notions.
Oui, c'est ça. Ben, pour justement changer le mal de place, on va visiter des studios d'enregistrement, on va visiter des magasins de disques, on va chez Steve. Je trouve ça personnellement encore à mon âge impressionnant. Fait que je me dis qu'un kid de 10 ans va être impressionné parce que ce qui est le fun avec Steve, c'est ça finit plus. T'as l'impression que t'as fait le tour du magasin. Ben non, il y en a un autre à côté, puis il y en a un autre à côté. Puis j'ai préparé mentalement la gang du Steve, là, fait qu'il voit une dizaine de kids arriver qui jouent sur tout. Puis
ça doit être le Walt Disney
ouais,
du rock'n'roll.
C'est ça, puis c'est comme le top. Aussi, on les emmène l'été, pas cet été, l'autre été d'avant, on est allé voir le montage d'Heavy Montreal. Fait qu'on a vu avant que le show commence, mais ils ont pu monter ces gros stages, puis tout.
Pis, donc, ça fait combien de temps que tu as l'école?
Là? Ça fait 2 ans. Puis.
Il y en a qui reviennent?
Oui, oui, oui. Il y en a même que... Je sais pas si ça se dit à radio. J'aimerais qu'ils reviennent pas. Mais non, c'est le fun pareil. Là. C'est juste que... L'affaire aussi, c'est que nous, on deal surtout avec soit des enfants de musiciens ou du monde qui sont un petit peu dans ce milieu-là. Fait que c'est des jeunes, pour la plupart, extrovertis, un petit peu hyperactif.
Un peu motivé parfois.
Ou, pas nécessairement, mais qui ont beaucoup d'énergie. Puis des fois, l'énergie n'est pas compatible avec celle des autres. Fait que ça nous demande d'être un peu plus autoritaire qu'on aimerait l'être. Parce que on est dans le rock'n'roll, on n'est pas là pour se faire bosser. Puis jusqu'à un certain point, on encourage la rébellion. Là. Sauf que pour que tout fonctionne, souvent, ben, on n'a pas le choix de marcher tout du même bord de la rue, exemple. Là. C'est aussi niaiseux que ça. Mais c'est ça. Mais on les aime quand même, puis on dit ça sur le coup, là. Là, mais je serais bien, j'aime mieux qu'ils viennent ici, qu'ils aillent dans un autre camp, puis qu'ils s'emmerdent, puis qu'ils disent « Ah, j'aurais même mieux aller là », parce que, comme je dis, on est très slack. Tant que tu respectes les autres, nous on est correct. Puis c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse faire un show. L'idée, c'est de faire un show le rendu le vendredi. Fait que si, dans le chaos plus ou moins organisé, on réussit à faire ça, on est content.
Ça marche, le spectacle, à la fin de l'année?
Oui, ben ils sont super contents de le faire. Puis les parents sont super fiers de le voir. Puis pour plusieurs parents, c'est une révélation. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on leur fait découvrir de la nouvelle musique. T'sais, il nous arrive, ah, moi, Rush, puis moi, tu me dis Rush, puis j'ai mal au cœur, fait que je vais te faire écouter d'autres choses. T'sais.
Ouais.
Puis ça, on leur a fait écouter du Ramones, du CDC, puis du Grimmskunk, du Groovy Aardvark. On essaie de balancer aussi avec le rock québécois, mais pas les écœurer avec ça. T'sais. Puis là, on a un jukebox, fait que les kids, ils peuvent jouer dessus autant qu'ils veulent, puis c'est juste du québécois qui est là-dedans.
Ouais,
puis
bien.
Pour eux, c'est comme une machine. Le fun, puis en plus, ils écoutent de la musique. Puis, ils ont repris une vieille chanson des années 60 qui s'appelle Gros Poulet, qui est un groupe obscur d'Abitibi, Four Plaids. Puis, c'était drôle de voir des kids de 7 à 10 ans reprendre cette chanson-là. T'sais.
A eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Dans le célèbre capitulaire de 789, dit Admonitio Generalis, il ordonne que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le calcul, la grammaire.
Puis, ben moi, j'ai un jardin depuis l'été passé à l'école pour parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Vu qu'on venait dans un milieu défavorisé, je trouvais que ce serait intéressant que les gens apprennent à faire de la culture sur leur balcon.
Catherine Landreville, prof de quatrième année à Chanoine-Joseph-Théoret.
Oui. Puis, je leur apprends à faire de la culture soit dans la cour, soit sur leur balcon avec des contenants. Puis, il y a une activité une fois par semaine où ils viennent à l'école pendant l'été faire du jardinage. Puis l'été passé, j'ai eu plusieurs petits
Donc, on prolonge l'école pendant l'été.
Oui, mais c'est volontaire. Là. Il n'y a pas d'inscription. Si je veux venir, je viens. Si je ne veux pas venir, je ne veux pas venir. On a eu une corvée de nettoyage du jardin aussi au mois d'octobre. On a eu du compost de la ville pour un tendre. Puis là, j'essaie très, très, très fort d'écrire à plusieurs organismes qui donnent des subventions aux écoles pour avoir des sous pour faire un superbe jardin l'été prochain.
Je vais mettre ça dans l'émission, ça va vous aider. Vous faites pousser quoi comme légumes?
Ah, bien, en fait, on essaie surtout d'y aller avec différentes choses qui se font dans les différents cycles, soit en sciences, soit en univers social. Comme par exemple, en univers social, l'été prochain, je vais essayer de faire pousser du melon de Montréal parce que ça correspond aux dates de programme du troisième cycle.
Univers social, c'est le nouveau nom pour histoire?
Oui, okay. Exactement, histoire et géographie. Puis aussi, au deuxième cycle, troisième, quatrième année, on va faire pousser des fèves, des courges et du maïs, comme les Amérindiens le faisaient. parce que c'est dans notre programme de deuxième cycle.
Ça rend les cours vraiment concrets d'avoir...
Oui, parce que souvent, les élèves, ils entendent parler de quelque chose, puis oui, on entend parler, c'est bien, mais on le voit pas. Surtout en histoire-géographie, là, parce que c'est flou. Mm-hmm. C'est il y a longtemps, des fois, ils me demandent, Madame Catherine, étais-tu là en Nouvelle-France? Non.
excusez-moi, j'avais demandé une activité complètement silencieuse. Alors, on continue pour les 5 minutes qui nous restent. Exactement. Alors, je vais vous voir faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez choisi, sans parler aux voisins. Merci.
Est-ce que c'est un de vos rêves d'enfant de devenir prof?
Je détestais l'école. Non, vraiment.
Est-ce que vous faites ici, vous avez souffri?
Mais non, pas du tout. Vers l'âge de 12 ans, je me suis mis à garder. J'adorais les enfants. Mais j'aimais pas être à l'école, probablement parce que je suis tombée sur des mauvais profs, des profs qui répondaient pas à mon type d'apprentissage. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que peut-être que ce serait une bonne chose de changer ça. Alors, j'ai tenté ma chance, puis ça fait 9 ans que j'enseigne, puis j'adore ça.
Au printemps dernier, on a vu de nombreuses personnes réclamer la totale gratuité scolaire. Ils n'étaient pas les premiers à le faire. Au 17e siècle, Charles Démia, un prêtre séculier, a écrit un règlement pour les écoles de la ville et diocèse de Lyon, dans lequel il vantait les mérites d'une école gratuite afin d'instruire les pauvres. La réussite de son entreprise, encouragée par l'administration épiscopale, lui valut de recevoir en 1672 la direction de toutes les petites écoles du diocèse. À sa mort, il laissa 16 écoles gratuites de garçons et de filles. Voici comment il justifiait la gratuité scolaire pour les petits-enfants pauvres. Il est vrai que les enfants d'honnêtes familles, donc les enfants riches, reçoivent l'instruction de ces devoirs dans leur maison, par leurs parents, dans les écoles, par les maîtres qu'ils paient, dans les collèges, par les régents que la ville entretient. Mais les pauvres, n'ayant pas le moyen d'élever ainsi leurs enfants, ils les laissent dans l'ignorance de leurs obligations. Le soin qu'ils ont de vivre fait qu'ils oublient celui de leur faire apprendre à bien vivre, et eux-mêmes, ayant été mal élevés, ils ne peuvent communiquer une bonne éducation qu'ils n'ont jamais eue. Outre que le désordre dans lequel la plupart de ces pères ont vécu pendant leur jeunesse fait qu'ils se soucient fort peu que leurs enfants apprennent les bonnes mœurs et les devoirs du christianisme qu'ils ignorent. De ce peu de soin qu'on a d'élever les jeunes gens, s'ensuit la prodigieuse ignorance de Dieu qu'ils sont néanmoins obligés de connaître, d'aimer et de servir s'ils veulent avoir part en son royaume. Mais comment le connaîtront-ils s'ils n'ont de maître qui les instruise? Comment les maîtres les instruiront-ils si quelqu'un ne les entretient? Qui les entretiendra si le corps de ville, les curés, les marguilliers de chaque paroisse n'entreprennent cette dépense? Peut-être que quelqu'un voudrait dire que les jeunes gens pourraient recevoir cette connaissance par les sermons et catéchismes qui se font dans les paroisses. Mais comme plusieurs ne les fréquentent point, et que ceux qui y assistent n'en profitent aucunement, soit parce que la plupart des instructions qui s'y font sont au-dessus de leur portée, soit à cause que la semence divine qui s'y jette est souvent étouffée par la corruption de la nature et les mauvaises compagnies qu'ils fréquentent dès qu'ils en sont dehors. Si ce défaut de bonne instruction est cause que l'on pèche contre les devoirs que l'on doit rendre à Dieu, il préjudicie encore beaucoup au public et particulier qui le compose. Car les jeunes gens mal élevés tombent ordinairement dans la fainéantise. De là vient qu'ils ne font que ribler et battre le pavé, qu'on les voit attroupés par les carrefours où ils ne s'entretiennent le plus souvent que de discours dissolus, qu'ils deviennent indociles, libertins, joueurs, blasphémateurs, querelleurs, ça donne à l'ivrognerie, à l'impureté, au larcin et brigandage, qu'ils deviennent, enfin, les plus dépravés et factieux de l'État, duquel, étant les membres corrompus, ils gâteraient le reste du corps si le fouet des bourreaux, les galères des princes, les gibets de la justice n'enlevaient de terre ces serpents venimeux qui infecteraient le monde par leur venin et leur dissolution. Il n'y a point aussi d'autre moyen de tarir la source de tant de désordres et réformer chrétiennement les villes et les provinces qu'en établissant des petites écoles pour l'instruction des enfants du pauvre peuple, dans lesquelles, avec la crainte de Dieu et les bonnes mœurs, on leur apprendrait à lire, écrire et chiffrer par des maîtres capables de leur enseigner ces choses qui les mettraient heureusement en état de travailler en la plupart des arts et des professions. Par ce moyen, les fabriques et manufactures se rempliraient peu à peu de bons apprentis qui pourraient ensuite devenir d'excellents maîtres puisque dans ces écoles, on leur enseignerait l'obligation qu'ils ont de travailler fidèlement et fortement et les moyens dont il faudrait qu'ils se servent pour sanctifier et faire fructifier leur travail en leur insinuant une grande horreur de la chicane et de la fainéantise. Ah, voyez, l'éducation, nécessairement, c'est bon pour l'économie. Ces écoles publiques seraient encore comme des académies de la perfection des pauvres enfants où les fougueuses passions de la jeunesse seraient domptées et soumises à la raison, leur entendement éclairé des vertus qu'on leur enseignerait, leur mémoire remplie de bonnes choses qu'ils y entendraient et leur volonté échauffée par les exemples de vertus qu'ils y verraient pratiquer. Des bénéfices de l'école gratuite pour les pauvres, un texte du 17e siècle.
C'est Mylène.
Et t'es prof de...
Je suis prof de 5e année cette année. C'est la première fois. Ça fait 7 ans que j'enseigne la 6e année. C'est la première fois que... C'est pas si loin, mais au niveau de la maturité, là, en septembre, c'est vraiment pas la même chose un enfant de 11 ans qu'un enfant de 10 ans. T'sais, 11 ans, il est un peu pré-ado. Mm-hmm. 10 ans, c'est vraiment un enfant. Donc, ils ont besoin de plus de le côté maternel. C'est quelque chose que j'ai développé cette année. Là, il va falloir que je te quitte.
C'est bon.
Que j'aille préparer mon stock.
Vous écoutez toujours dans le champ lexical l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, le mot, c'est école. Aimez-vous votre école?
Ouais, elle est fun. Puis les profs sont plutôt gentils.
Tu es en quelle année?
Moi, je suis en 5e.
Toi aussi?
Oui, on est dans la même classe.
Moi, je suis en 6e. On est 2, 3, 4.
Donc, l'année prochaine, vous n'êtes plus dans cette école-là?
Oui, c'est plate.
C'est plate? Vous allez vous voir quand même?
Il y en a que non.
Peut-être pas moi.
Ben comme Camille, non, parce qu'elle va déménager, mais... Moi, je sais pas. Peut-être que je vais aller chez ma mère. Puis c'est sûr.
Est-ce que tu as déjà visité ton école secondaire?
Non, on va la... Ben oui, un petit peu, mais on va la visiter plus avec le passage primaire-secondaire. Mm-hmm. On va même passer une journée dedans. Ben, une demi-journée à l'école.
Puis, est-ce que tu fais déjà des cauchemars de te tromper de classe, de plus trouver tes locaux?
Non. J'ai pas peur.
Peur du tout?
Non. Même si c'est grand. Parce que j'ai déjà eu des grandes écoles.
C'est pas ta première école ici?
Non.
Et petite ici?
Hein?
C'est une petite école ici?
Non. Ben, bof. Oui, puis non. Elle est assez grande, là, surtout pour les maternelles.
Thank you.
cette semaine, à Dans le champ lexical, on a vraiment l'immense plaisir de recevoir Biz, qui est rappeur au sein du groupe Le Colocasse, mais qui est aussi auteur. Son roman La chute de Sparte est paru l'an dernier chez Le Méac. Et il a raflé pas tous les prix sur son passage, mais il en a eu beaucoup, dont le prix Jeunesse des libraires du Québec. Et ce livre-là, ça raconte la dernière année de Steve Simard au secondaire à la polyvalente Gaston Miron. Et c'est une année qui va être riche de toutes sortes de choses, d'émotions négatives, positives, de désirs, de désespoir. Et puis, donc, Biz, bonjour.
Salut.
Biz, j'aimerais ça que tu commences par nous lire un extrait qui, je pense, donne vraiment le ton et un peu le message, les messages que tu passes dans La chute de Sparte.
Oui, alors c'est un extrait, c'est une lettre ouverte que Steve fait paraître dans le journal étudiant à la fin de l'année, qui nous donne un peu l'idée de son envergure intellectuelle, parce que c'est un type qui est très cultivé. Donc, il fréquente, lui, la polyvalente Gaston Miron, et à la suite d'une fusion, on va fusionner les deux écoles, la polyvalente de Longueuil puis l'école Gaston Miron. Et là, le directeur conscrit les élèves, leur dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, votre belle école, battez-vous, on peut empêcher ça, ça n'a pas d'allure. » Et Steve répond donc à l'appel du directeur. « Je ne combattrai pas pour Sparte. Ainsi donc, Sparte va se faire avaler par l'aigle romain. Et Léonidas nous conscrit sous les drapeaux pour livrer bataille. Désolé, mais je ne combattrai pas pour Sparte. Lorsque j'ai voulu joindre les rangs de l'équipe en secondaire 1, les Spartiates n'avaient pas besoin de moi. En toute franchise, je suis bien content de quitter Gaston Miron. La véritable éducation spartiate était fondée sur l'excellence et le dépassement de soi. En 5 ans, je n'ai reçu aucun appel au dépassement. En ce sens, la réforme est une complète faillite. Et ne blâmez pas les créatures pour leur paresse et leur béotisme. Nous ne sommes que les Frankenstein du ministère de l'Éducation, un pur produit d'expériences ratées par les savants fous du complexe G. Résultat, une génération de petits empereurs qui pavanent leur nudité intellectuelle avec ostentation. Mais ne nous blâmez pas. La culture du vécu et la hantise de l'élite font croire aux ignorants que leur pensée vaut celle de Kant et de Socrate. En évacuant l'effort et la connaissance de l'école, les pédagogues ont tué l'apprentissage. Mais une épée ne s'aiguise pas avec du coton. C'est en la frottant 100 fois sur la pierre que son fil devient tranchant. Confronté à la médiocrité érigée en système, je n'ai fait que le minimum. D'un point de vue scolaire, je considère mon secondaire comme une totale perte de temps. Tout ce que j'ai appris, je le dois à mes lectures hors classe. « Monsieur le directeur, à 2 mois de la fin, vous voudriez que je me lève pour sauver votre job? Non, Agamemnon, je ne me battrai pas pour toi. Ni Nestor, ni aucun autre super-héros ne me fera changer d'avis. Je suis Achille, et ma colère est grande. Je garde de mon secondaire quelques amitiés et le souvenir d'un vrai guerrier, Mathieu Saint-Amour. J'emporte aussi Gaston Miron comme butin de guerre. Chacun ses pieds dans ses pas, chacun ses os au cimetière. Pour le reste, Sparte peut bien brûler. Je n'aurai pour elle aucune larme à verser. Vivement le cégep. »
Puis c'est un extrait très intéressant, et puis ça l'est parce que tout au long de ton roman, on sent ce langage, ce champ lexical de la mythologie, oui. Et tout ça. Et puis ton titre étant La chute de Sparte, on sait qu'à Sparte, l'éducation, comme tu le mentionnes, est basée sur l'excellence et est obligatoire. Oui. Et donc, dans cette optique-là, la chute de Sparte, c'est quoi pour toi? C'est la chute libre de l'éducation québécoise?
Bien, on peut le voir de toutes sortes de façons. D'un point de vue métaphorique, oui, il y a un peu de ça quand même, parce que moi, je me promène beaucoup dans les écoles secondaires depuis peut-être une bonne dizaine d'années, puis je vois littéralement les jeunes qui sont des pissenlits dans les craques de béton, c'est-à-dire que des jeunes immensément riches, talentueux, des beaux jeunes, puis des profs même qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider ces jeunes-là, puis ils sont dans un environnement d'une laideur extrême d'abord, qui est la polyvalente. Puis je trouve que de ce que je vois là, des cahiers pédagogiques du ministère de l'Éducation où on leur met même par exemple des trucs d'astrologie comme travaux pratiques à faire où on les prend en fait pour des caves, puis on les élève pas par le haut. Il y a une sorte de gaspillage, à mon avis, d'une immense ressource qui est la jeunesse. Puis ça peut être une des multiples façons de voir le titre, mais de façon plus prosaïque, l'équipe de football de l'école Gaston Miron s'appelle les Spartiates. Puis, à la fin, cette école-là va se faire fusionner avec les aigles de Longueuil, qui est l'équipe de football adverse, qui est les aigles, qui est les grands rivaux des Spartiates. Puis, l'aigle, c'était le symbole de Rome. Et dans l'histoire, Rome a, à la suite d'une sorte de fusion, effectivement avalé Sparte.
OK, OK.
Donc, il y a toutes sortes de niveaux de symbolique, là.
puis la laideur de la polyvalente, tu l'as abordée. Ouais. J'aimerais que tu en dises un peu plus parce que tu fais une description dans le roman. Ouais. Et puis c'est assez évident pour toi que c'est un signe aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui déprime beaucoup les élèves aussi, qui les pousse pas à se dépasser.
C'est ici, là, en ce moment, on est dans les nouveaux studios de CIBL qui sont des beaux espaces vitrés, lumineux, neufs. Ça incite au dépassement de soi. On a le goût d'être bon à la radio quand on est ici. C'est la même chose à l'école. Un environnement de marde, ça donne pas le goût de te dépasser. Puis aucun adulte normal travaillerait dans des bureaux où il y a carrément des grilles. Même qu'à une école où je suis allé à Betiamit, à Washkaigan, il y avait, avant que le directeur rentre, des grilles au bout de chaque corridor, comme si les étudiants étaient des bêtes méchantes qu'il fallait garder derrière les grilles d'un zoo. On les emmure, on les encabane, c'est comme des prisons, c'est du béton, il n'y a pas de lumière, c'est tout craquelé, c'est des pas belles couleurs. Comment veut-on que les élèves performent dans un environnement comme ça?
Mm-hmm. Puis il y a aussi, évidemment, puis on en entend parler, mais là, tu le décris aussi, la violence, la cruauté qui règne dans une école comme ça. Puis ton personnage en fait les frais, d'ailleurs, de ça. Et donc, veux-tu m'en parler un peu?
Bien, c'est dans l'air du temps. C'est sûr qu'on en parle beaucoup. Ça a toujours existé. Je pense que chacun, peu importe notre âge, chacun, on aurait des anecdotes plus ou moins malheureuses à propos, justement, de l'intimidation puis du fait qu'on s'est fait ou on écœurait les autres quand on était plus jeune. Il y a quelque chose, je pense, de l'ordre du passage, du rite de passage. Je pense qu'on devient... On entre en secondaire, on est un enfant, on ressort, on est presque un adulte. Et entre ce passage-là, il y a... Chez toutes sortes de tribus plus ou moins primitives, il y a des rites de passage où les guerriers doivent accomplir des prouesses, soit à la lutte, soit à la chasse. Donc, des prouesses plus ou moins violentes pour déterminer qui sont des hommes. Peut-être qu'il y a de ça un peu symboliquement dans les écoles secondaires aussi. Mais moi, il y a une chose qui... Les polyvalentes sont carrément des lieux de non-droit, à savoir que si t'es dans une polyvalente, puis tu fouilles dans ta case, puis on te rentre dans ta case à coups de pied dans le cul, ou on prend ton lunch, puis on le jette dans la poubelle, si on était dans un bureau, on porterait plainte contre la police, carrément, pour agression physique, tu sais. Dans une polyvalente, on de moins en moins, heureusement, parce qu'on en parle de plus en plus, mais il y a des choses qui sont tolérées en termes de violence, qui sont pas tolérées ailleurs dans la société, puis c'est un peu troublant.
Puis, il est très, évidemment, très articulé, très cultivé, ton personnage de Steve. Il cite Taureau, parle de l'affaire Dreyfus, il te parle de Virgile. Tu disais que c'était comme un surado, disons. Ouais. Mais penses-tu que si, mettons, l'école était un petit peu moins, justement, le système était moins médiocre, comme tu en parles, ça pourrait être un ado...
Normal.
Normal, ouais.
Normal, je pense pas, parce que c'est vraiment... Mais c'est-à-dire que moi, je l'ai conçu comme un uber-ado, dans le sens que des ados comme lui, j'en ai jamais rencontré, mais moi, j'avais une partie de lui qui était comme lui. J'en ai rencontré des ados. C'est comme un Frankenstein de toutes sortes d'adolescents. Là. J'en ai rencontré un qui trippait sur Cyrano, un qui trippait sur Kant. Fait que là, je les ai toutes mises ensemble, puis ça donne un ado qui n'est pas normal, qui ne se peut pas. Par contre, ce que les jeunes me disent, je me disais, moi, comment il va être reçu, cet ado-là, justement, parce qu'il n'y a personne qui est comme lui, ça n'existe pas. Par contre, ils me disent, les jeunes, ton histoire, on y croit, ton personnage, on y croit, parce qu'il a beau lire Kant puis Platon, quand il est pogné avec sa peine d'amour, personne ne peut l'aider pour ça. T'sais. Donc, sa vraie vie à lui, sa relation avec ses parents, avec l'école, ses amis, son avenir, quand il vient le temps de choisir le cégep, tous les ados sont pris là-dedans, là, peu importe qu'ils lisent Kant ou non. Et donc, c'est un ado un peu extraordinaire, mais avec une vie ordinaire. Et c'est ce que les jeunes retiennent.
Je peux pas m'empêcher de te demander en terminant comment était ton secondaire, toi? Est-ce que tu gardes de bons souvenirs du secondaire?
Oui, j'en garde des bons souvenirs. Peut-être comme on disait tout à l'heure, on a une mémoire sélective par rapport au secondaire. J'ai peut-être évacué des moins bons moments. Moi, ça allait quand même assez bien. J'avais des bonnes notes, mais il fallait pas que je pavoise avec ça si je voulais rester dans le coup. Et donc, ça nous montre un point l'absurde de la médiocrité d'un système où les gens excellents doivent faire profil bas, sinon ils sont dérangeants et on les met de côté, on les frappe littéralement parce qu'ils sont trop bons, puis ils ramènent les autres à leur propre médiocrité. Mais tu sais, j'étais pas celui qui avait les meilleures notes, j'étais pas celui qui était le... Mais tu sais, j'avais des bonnes notes, j'étais un peu bon dans les sports, j'avais des amis... Je me faisais un peu écœuré, j'écœurais un peu. Je dirais une sorte de secondaire moyen. La seule chose que je regrette de mon secondaire, c'est que ça a été le néant complet avec les filles. ben voilà, j'aurais aimé entreprendre des relations avec les filles un peu plus tôt que ça, mais bon, c'était comme ça.
Tu t'es repris plus tard.
Au moins, j'avais des amis. Oui, je me suis repris plus tard, en effet.
Si certains au XVIIe siècle se font les apôtres d'une scolarité gratuite, d'autres sont bien plus réticents face à l'éducation. Il est vrai que de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle, on a vu une multiplication des collèges. Entre autres, les jésuites, dès 1640, en possèdent 93. En 1715, 200 villes possèdent un collège. Mais la multiplication des établissements, même en de petites cités, la proportion élevée de jeunes gens engagés dans les études secondaires soulevèrent des inquiétudes et suscitèrent bien des critiques. Innombrables sont les documents dénonçant le nombre excessif des collèges. En voici un exemple, parlant de l'opposition de la ville de Troyes, tiré du Mercure français, un périodique, en 1611. Tout le bien que l'on pouvait espérer de l'établissement des Jésuites à Troyes regardait principalement l'instruction de la jeunesse et la commodité qui en arriverait au pays par l'affluence de 500 ou 600 écoliers, lesquels, faisant leur demeure en la ville, y apporteraient quelques commodités et faciliteraient la vente et le débit des fruits et denrées de la province. Mais, d'autre côté, balançant telle commodité imaginaire avec les incommodités certaines qui accompagneront cette installation, l'on ne voulait nullement condescendre à les recevoir, car tout ainsi que non omnis fert omnia tellus, ainsi le principal talent de la ville de Troyes était le commerce, non les lettres. Ah, tiens, on dirait le maire de Saguenay. Non, pourtant c'est bien les gens de la ville de Troyes en 1611. Il est très certain que 5 ou 6 métiers y apporteront beaucoup plus de commodités que ne feront 1000 ou 2000 écoliers si la ville était capable d'en tant loger. Joint que cette jeunesse, qui est ordinairement indiscrète et insolente, causerait une infinité de noises, querelles et débauches entre les artisans et ne pourrait jamais compatir avec un peuple prompt à la main. Aussi que, le pays n'étant pas des plus fertiles, les écoliers feraient enrichir les vivres et les logis, ce qui pourrait donner sujet aux ouvriers et artisans de se retirer ailleurs pour y vivre et être logés plus commodément et à meilleur prix. Exode plus des ouvriers vers les banlieues lointaines. Aïe, aïe, aïe. Au moyen de quoi, le trafic auquel consiste la principale richesse de Troyes cesserait et la ville demeurerait ruinée ou, tout le moins, beaucoup incommodée. L'on ajoutait que ceux qui ont des moyens auraient toujours plus agréable d'envoyer leurs enfants à Paris ou aux autres universités fameuses pour apprendre la civilité et ce qui est du monde que de les retenir en leur propre foyer. Par ainsi, ce qui resterait d'écoliers en la ville seraient quelques enfants de pauvres gens qui seraient du tout à la charge du pays sans y apporter l'honneur du profit. Voilà un discours de commerçant. Les citoyens de la ville de Troyes qui s'opposent à l'installation d'un collège dans leur ville, un texte tiré du Mercure français de 1611.
Biz va maintenant nous lire 2 chapitres du début de son roman « La chute de Sparte » qui est paru dans la collection « Léméac ado » aux éditions Léméac l'an dernier.
La rentrée. On a beau dire que l'école nous emmerde, vers la fin du mois d'août, on a quand même hâte de revoir les amis. Le jour de la rentrée est toujours fébrile. Dès le matin, les autobus jaunes déversent des torrents de flots agités et l'esplanade principale se transforme en rivière frémissante. Longeant le terrain de football du côté est, j'ai une vue d'ensemble sur les adolescents réunis devant la polyvalente. Tout en noir, maquillés, les gothiques allient l'imaginaire des vampires à la mythologie scandinave. Ils veulent faire peur, mais je les aime bien. Ils emmerdent personne et ils se battent jamais. En fait, ils sont doux et polis. Protégés par leur carapace de cuir et de clous, ce sont des trésors bien gardés. Les rappeurs sont plus tapageurs. Leurs amples habits les font ressembler à des personnages de BD. Tous les gars de la meute se comportent en mâle alpha. Hyper sexy et toute menue, les filles bougent comme dans les clips. Chacune de leurs poses est calculée pour attiser le désir des hommes et la jalousie des femmes. Elles sont tellement excitantes que j'en ai mal au ventre juste à les regarder. Ce sont surtout des noirs qui composent leur cohorte, mais on compte quelques blancs. La culture n'a pas de couleur. J'envie leur attitude à la fois relaxe et tendue. J'admire leur démarche souple de panthère toujours prête à bondir. Du fait de ma jambe droite plus courte, ma démarche légèrement chaloupée me permet une certaine connivence avec la clique hip-hop. Et puisque j'adore leur musique, je suis en très bon terme avec eux. Et bien sûr, il y a les flamboyants spartiates, notre équipe de football, la fierté de Gaston Miron. Aisément reconnaissables à leur couleur bourgogne et or, ils forment une véritable armée. Le corps arrière, Mathieu Saint-Amour, en est le général. Beau, blond, brillant, c'est le demi-dieu de notre école. Même les profs et la direction lui vouent un respect intimidé. Seul l'entraîneur Claude Picotte peut prétendre à un certain ascendant sur lui. Chargé de le protéger sur le terrain, les gros joueurs de ligne l'accompagnent partout comme une garde prétorienne. Évidemment, il discute avec des filles réunies en hémicycle BA autour de lui. La brigade défensive est menée par Maxime-Alexis Giroux, un secondeur intérieur que tout le monde appelle Mag. Ce surnom lui va très bien. Comme une jante chromée, il est quétaine et rutilant. Il arbore son éternelle coupe marine et semble encore avoir pris du muscle cet été. Il lance un ballon de football avec des coéquipiers en parlant trop fort pour que tout le monde le remarque. Sa capacité d'analyse des formations adverses et la puissance de ses plaqués lui valent une renommée dans toute la ligue. En dehors du terrain, c'est un gros con gueulard que je méprise. Assis en rond dans l'herbe, les cheerleaders de l'équipe piaillent comme des mésanges. Après 2 mois sans se voir, elles ont du temps à rattraper. Parmi elles, Véronique Plourde, aussi lumineuse qu'un après-midi d'octobre. Je la regarde de loin comme un horizon inatteignable. Près des rampes d'escalier, les skateux font flipper leurs planches avec trop d'ambition et pas assez de talent. Comme des rôtis beurrés, les planches retombent toujours du mauvais côté. Il y a aussi les néo-hippies à dread qui jouent au hockey, l'incarnation de la nonchalance et de l'oisiveté. Et parce que la vie n'est pas une pub de coke, il y a cette majorité de jeunes sans style défini, hybrides et inclassables. J'en suis. N'en déplaise aux sondeurs, la jeunesse est multiple. Il n'y a pas de courant d'opinion propre aux jeunes. Ce sont les mêmes lignes de fracture que pour les adultes. Gauche-droite, vaillance, paresse, extravagance, conformisme, génie, bêtise. Une seule chose rallie tous les ados, l'amour de la musique. Elle pulse dans nos tympans au même rythme que le sang dans nos tempes. Nos écouteurs sont des cordons ombilicaux qui nous relient à la matrice de nos iPods. Dans le film de nos vies, la bande sonore défonce les haut-parleurs. Toutes les scènes de notre existence sont enrichies d'une trame diégétique. En ce moment même, des transfusions ont lieu. Des amis échangent leurs découvertes estivales en partageant leurs écouteurs. Jumeaux hétérozygotes nourris au même placenta. D'un glissement d'index sur l'écran tactile, j'augmente le volume. Comme une coulée de titane en fusion, la voix métallique d'Eminem emplit tout mon crâne. Battant la mesure avec ma tête, je me fonds dans la masse à la recherche de mes amis. Second chapitre, la polyvalente Gaston Miron. D'un point de vue architectural, je ne connais rien de plus laid qu'une polyvalente. C'est un improbable amalgame de bunkers gouvernementaux est-allemands, de pénitenciers à sécurité maximale et de caisses populaires. La nôtre s'appelle Gaston Miron, mais tout le monde dit GM. Imaginez, l'immense poète Gaston Miron réduit à une compagnie de chars américaine en faillite. Mais au fond, qu'est-ce qu'une école sinon une usine à diplômes? Année après année, nous sommes des centaines à sortir de la chaîne de montage, astiqués et formatés, prêt pour la grande route du monde adulte. Tout est poche dans une école secondaire. C'est un laboratoire de fausses bonnes idées des années 70. Béton craquelé, plâtre jauni, métal rouillé et couleurs tristes. Aucun matériau noble, aucune verdure, aucune gaieté. Censé apaiser nos caractères énergiques, le vert tendre des murs donne la nausée. Quand en plus la peinture est écaillée de partout, ça devient carrément déprimant. Sans doute pour qu'on ne puisse pas s'y précipiter, les fenêtres en meurtrière ne s'ouvrent pas. Pas étonnant qu'on végète à l'école. À la fin de la journée, nos classes sont des serres pleines de gaz carbonique. La décoration est franchement infecte. Dans le hall principal de Gaston Miron, on trouve un macramé géant. Je le jure. La première affaire qu'on voit en rentrant, c'est un fouillis d'amarres tressé avec des boules de bois. Dans l'entrée de la bibliothèque, c'est une touffe de poils rouges de 6 pieds sur 6 qui orne le mur. C'est quoi le rapport? À la longue, je suis sûr que cet environnement merdique finit par miner notre morale et nos résultats scolaires. Est-ce qu'on peut poursuivre un architecte pour mauvais goût? La seule oasis de beauté dans ce désert de laideur, c'est l'immense mosaïque du visage de Gaston Miron sur la façade principale. Ça, c'est franchement réussi. Des pièces de céramique asymétriques, noires, grises et blanches, façonnent la bonne bouille du poète. Dans la rue, en débouchant par l'esplanade principale, on reconnaît son visage bienveillant, encadré de ses fameuses lunettes carrées. Ça fait un peu Staline sur la plage rouge, mais le type a l'air tellement modeste que même à cette échelle, son portrait ne paraît pas prétentieux. Rien à voir avec les poètes du 19e. On dirait un commis de bureau anonyme. En se rapprochant du mur, les pixels grossissent et l'ensemble se brouille en une envolée d'outarde sur un lac agité. Évidemment, tout le bas du mur est barbouillé de graffitis qui forment une bande d'entrelacs dégoulinant du cou de l'écrivain jusqu'au sol. Le rouge étant particulièrement prisé par les graffeurs, on dirait qu'un invisible bourreau brandit la tête de Gaston fraîchement guillotiné. C'est terrible et magnifique, comme l'adolescence.
Au 11e siècle, les enfants sont scolarisés dans des écoles monastiques. Ils y vivent. Et les règles y sont strictes. Voici comment elles sont décrites dans les constitutions monastiques de l'an franc. Le matin, le prieur doit faire du bruit pour éveiller les enfants à telle heure qu'ils puissent, une fois les prières habituelles faites, lire dans le cloître. Quand ils commencent à lire, qu'ils le fassent à haute voix pendant un moment. Qu'ils s'assoient en laissant un espace entre eux de manière qu'aucun ne puisse toucher son voisin avec ses mains ou ses habits. Aucun enfant ne doit faire signe à un autre, ni dire un mot, si ce n'est au vu et au su du maître, ni s'asseoir ou se lever sans qu'on le leur ait ordonné ou permis. Où qu'ils aillent, qu'on place toujours un maître entre deux enfants, et s'ils passent devant des frères, qu'ils s'inclinent devant eux, alors que les frères restent assis pour leur répondre. Une seule lanterne suffit pour deux enfants. S'ils sont trois, le troisième apportera une seconde lanterne, et ainsi de suite s'ils sont plus nombreux. Qu'ils ne se donnent rien entre eux, ni ne reçoivent quoi que ce soit, si ce n'est de l'abbé, du grand prieur ou de leur maître. Ceci ne se fera que dans les lieux appropriés, et seulement si c'est utile et indispensable. S'ils entrent dans le réfectoire après la prière qui est dite avant les repas, ou dans le chœur après le Gloria du premier psaume, qu'ils aillent à leur place en s'inclinant, comme d'habitude, tandis que leur maître va à la place désignée pour ceux qui arrivent en retard. Celui qui sert le repas de l'abbé ne sera pas privé de nourriture ni de boisson, sauf si l'abbé le demande. Dans ce cas, l'enfant sera renvoyé de la table de l'abbé ou bien la punition lui sera remise. Quand l'abbé est dans le chœur, personne ne doit frapper un enfant ni le faire se dévêtir pour le fouetter sans que l'abbé ne le demande. S'il n'est pas là, que le chantre les batte, mais seulement pour les fautes qui ont trait à son art. Pour le reste, c'est le prieur qui châtiera la légèreté de leur conduite. Où qu'ils soient, qu'aucune personne, sauf celle désignée ci-dessus, ne leur fasse de signe ou de sourire, que personne n'entre dans leur école, que personne ne leur parle en quelque lieu que ce soit, sans la permission de l'abbé ou du prieur. Aux heures de l'après-midi, qu'ils ne lisent jamais dans leur lit ou ne fassent autre chose, mais qu'ils s'y reposent sous leur couverture, qu'il y ait, au-dessus de leur autre maître, un maître particulièrement qualifié par son âge et son discernement, qui sache, avec une égale modération, punir ceux qu'on accuse de méfaits ou leur pardonner. Que les maîtres soient là quand les enfants vont au lit, avec les chandelles allumées, jusqu'à ce que ces derniers soient sous leur couverture.
On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet. On peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. On peut apprendre à un taxi à devenir aimable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. On peut apprendre à un taulier qui nous sert le pastis à ne pas dire il faut que j'encaisse, j'ai fini mon service. On peut
apprendre... C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. Avec nous pour cette émission, Chloé Barry, notre historienne en résidence, et Lisanne Rault-Leblanc, qui a rencontré Biz pour nous. Merci à Patrice Caron de l'École du rock'n'roll, et aux professeurs et aux enfants de l'école Chanoine Joseph Théoret à Verdun. Dans Champ lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joanie Larue, Nancy Caouette et Christiane Campagnat. Revenez-nous la semaine prochaine, ça risque de sentir bon dans vos oreilles, parce qu'on tourne autour du mot « fleur ».
Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver.